بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on est arrivé au chapitre باب ما جاء في الرقى والتمائم. Donc chapitre qui concerne الرقى. الرقى on va traduire par les exorcismes. والتمائم. التمائم, c'est-à-dire les talismans. Donc le cheikh dit dans le commentaire أي من النهي عما لا يجوز من ذلك, c'est-à-dire ce qui est cité comme interdiction concernant les talismans et les certaines sortes d'exorcismes. وذكر ما ورد عن السلف في ذلك, et aussi le fait de mentionner ce qui a été rapporté des salafs en ce qui concerne ce sujet. ولم يجزم بكونهما من الشرك لأن فيهما تفصيلا. Et Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a pas dit ici, fait partie du polythéisme, al-ruqa wa tamaim, c'est-à-dire les exorcismes et les talismans, parce qu'il y a un détail dedans. C'est pas tous les exorcismes et tous les talismans qui font partie du shirk. C'est pour ça qu'il a pas dit comme dans le chapitre d'avant. C'est pour ça aussi qu'il a répété un chapitre. Parce que le chapitre d'avant, il concernait les anneaux, ou les fils, ou ce qui ressemble à ça qu'on met comme porte-bonheur ou pour se protéger. Et ça, c'est tout entier haram. Mais dans les talismans et les exorcismes, il y a du détail. Les exorcismes, parce qu'il y a des exorcismes interdits et des exorcismes religieux qui sont tolérés. Et dans les talismans, il y a une divergence à propos des talismans qui concernent le fait de porter le Coran. Donc il y a une divergence, donc il n'a pas dit directement fait partie du polythéisme.
والرقى جمع رقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع.
Donc le ruqa, donc c'est quelque chose qui se dit pour protéger quelqu'un qui est touché d'un malheur comme le fait d'être possédé par un djinn ou alors certaines maladies comme la fièvre.
والتمائم جمع تميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم ويتلمحون من اسمها أنه يتم لهم مقصودهم فأبطلها الشرع.
Et At-Tamaim, on l'a vu hier, c'est des perles que les Arabes ils accrochaient à leurs enfants en disant que ces perles, s'ils les accrochent à leurs enfants, ça les protège contre le mauvais œil. Et ils espéraient du nom de ces perles, parce que les perles, on avait vu hier, il y en a qui s'appellent Wada'a ou Wada'a, donc ils en espéraient Ad-Da'a, c'est-à-dire la tranquillité. Et donc la religion, elle a annulé ce genre de croyance et de pratique. Donc il dit وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَشِيرِ الْأَنْصَارِ رضي الله عنه بفتح الباء وكسر الشين قال ابن سعد اسمه قيس بن عبد الله ويقال ابن عبيد الله بن الحارث أو ابن الحريث بمهملتين مصغر الحارث دكسي الحريث ابن عمرو بن الجعد الساعدي ويقال المازني من بني مازن بن النجار وقال ابن عبد البر وغيره لا يوقف له على اسم صحيح شهد الخندق وأحدا وهو غلام. Donc là il parle du compagnon du prophète qui s'appelle Bashir al-Ansari, et il mentionne notamment le fait qu'il a participé à la bataille d'Uhud et à la bataille de l'Khandaq. C'est connu en français comme la bataille du fossé.
روى عنه عباد وعمارة وغيرهما ومات بعد الستين ويقال إنه جاوز المئة وحديثه في الصحيحين وغيرهما.
Donc ils disent qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans. Et le hadith qui est mentionné ici, il est dans le livre de Bukhari et le livre de Muslim, les Sahih.
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. Donc il était avec le prophète صلى الله عليه وسلم dans un voyage. فأرسل رسولا. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a envoyé un messager. الا يبقين أو الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Donc le prophète il a envoyé un messager pour dire aux gens, en fait il a dit, il ne faut pas qu'il reste au cou d'un chameau une qilada. Une qilada, c'est un truc qu'ils accrochaient au cou du chameau, qui faisait à partir, comme il dit ici, minwatar, c'est-à-dire la corde qu'il y a dans un arc. Donc il a dit, il ne faut pas laisser au cou d'un chameau une qilada, donc je ne vais pas retraduire, c'est ce qui s'accroche ils accrochaient ça autour du cou des chameaux, à partir d'un fil d'arc. Ou alors il a dit une qilada en général, pas spécialement à partir d'un fil d'arc, sans la couper. C'est-à-dire il a envoyé un messager pour couper ce qui s'accroche au cou des chameaux, et que les Arabes y prenaient à partir du fil d'un arc. Donc il va expliquer ici un petit peu. Donc il dit يبقين بالياء المثنات والقاف المفتوحتين ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف وقلادة فاعل على الأول ومفعول على الثاني. Bon, ça pour ceux qui comprennent la grammaire, alhamdulillah, je peux rentrer là-dedans. وهي ما يعلق في رقبة البعير وغيره من وتر ونحوه. Donc القلادة, c'est des choses qu'ils accrochaient les Arabes au cou d'un chameau, au cou des chameaux. والبعير يقع على الذكر والأنثى وجمعه أبعرة وأباعر وبعران. Bon, ça c'est pour le mot بعير qui est cité dans le hadith. والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. Donc الوتر qui est cité ici, c'est le fil de l'arc. وكان أهل الجاهلية إذا خلوق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوه الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدبة العين ويدفع عنهم المكاره فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. Donc pour répéter, il dit les gens d'avant l'islam, quand le fil de l'arc se cassait, ils le prenaient et ils l'accrochaient au cou de leur bête, notamment de leur chameau, en croyant que ça repoussait le mauvais œil de la bête. Donc ils disaient, si j'accroche cet arc. Pourquoi le fil de l'arc spécialement? C'est parce que comme ils avaient fait des guerres avec, ils pensaient qu'il y avait une certaine bénédiction dans cette corde. Donc quand elle lâchait, quand la corde elle avait craqué, elle n'était plus utilisable, ils s'en servaient pour l'accrocher au cou du chameau. Et ils disaient, si on fait ça, le chameau il ne peut pas être touché par l'aïn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a interdit ça. Et il a informé que ça ne pouvait pas repousser le destin d'Allah. C'est-à-dire que c'est une fausse croyance. Donc ensuite, quand il a dit أو قلادة إلا قطعت شك الراوي هل قاله شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد وروي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. Donc on a posé la question à l'imam Malik à propos de القلادة, donc ce qui s'accroche au cou des chameaux, et l'imam Malik il dit, ce que j'ai entendu comme quoi c'est interdit, c'est que à partir des fils de l'arc. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ça que les Arabes y pratiquaient comme polythéisme, c'était spécialement avec le fil de l'arc. وَلِ أَبِي دَاوُدْ وَلَا قِلَادَةٌ بِغَيْرِ شَكْ فَتَكُونُ أَوْ بِمَعْنَ الْوَاوُ قَالَ الْبَغَوِي تَأَوَّلَ مَالِكٌ أَمْرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ بِقَطْعِ الْقَلَائِدِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُدُّونَ تِلْكَ الْأَوْتَارَ وَالتَّمَائِمَ وَالْقَلَائِدِ وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا الْعِوَضِ يَظُنُّونَ أَنَّهَا تَعْصِمُهُمْ مِنَ الْآفَاتِ. Donc, comment il s'appelle, Al-Baghawi, il a dit que l'imam Malik, donc il a interprété l'ordre du prophète dans le fait de couper ce qu'il s'appelle Al-Qala'id, c'est le pluriel de Al-Qilada, par rapport au fait que c'était pour se protéger du Aïn. Et parce qu'ils attachaient ce genre de choses, et notamment aussi les talismans, et ils y accrochaient donc des paroles protectrices, en pensant que ça allait protéger contre le malheur. فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا. Et donc le prophète il les a interdits. وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ شَيْئًا. Et le prophète il les a interdits, il a informé que ce genre de choses, les talismans etc,
Ça ne pouvait pas repousser ce qu'Allah t'a écrit. ووجه الدلالة من الحديث أن الأوتار والتمائم في الحكم شيء واحد ويؤيده قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. Donc pourquoi il a mis ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'en vérité, si ça c'est vrai pour ce qu'ils accrochaient comme fil d'arc au cou des chameaux, c'est vrai pour tous les restes des talismans. Parce que ça, il a précisé ça dans le hadith, c'est parce que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Mais peut-être dans d'autres peuples, ça va être d'autres formes de shirk, avec d'autres choses qui s'accrochent. Donc ce qui est voulu, c'est tout ce qui est commun, tout ce qui ressemble à ça. Et ce qui confirme ça, c'est le hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Celui qui accroche une tamima, fala atam allahu lahu » Ça veut dire qu'Allah ne complète pas ce qu'il veut. Donc le prophète, il a fait une invocation contre ceux qui accrochent des tamaim, c'est-à-dire des talismans.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود.
Donc là c'est ابن مسعود رضي الله عنه, il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les exorcismes et les talismans et التوالة, je vais pas le traduire, on va l'expliquer après, et du polythéisme, c'est-à-dire le prophète il a dit les talismans, les exorcismes, الرقى c'est le pluriel de رقى, et التوالة ça fait partie du shirk, du polythéisme. Donc Cheikh il dit ولفظه, il va citer le hadith au complet. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا قلت خيط رقي لي فيه قالت فأخذه ثم قطعه. Donc en fait l'histoire de ce hadith c'est que Zainab, la femme de عبد الله بن مسعود, elle avait à son cou donc un fil en fait, comme les fils dont on a parlé dans le cours d'hier. Et lorsqu'Abdallah ibn Mas'ud il a vu ça, il lui a dit c'est quoi? Et elle a dit c'est un fil sur lequel on a lu pour moi, dans lequel entre guillemets il y a une ruqya. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il a coupé le fil de son cou. Thumma qal antum ala abdillahi la aghniya'u ani shirk. Et il leur a dit oh la famille d'Abdallah, c'est-à-dire sa famille à lui, vous n'avez pas besoin du polythéisme, du shirk. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Et c'est là il a dit à sa femme j'ai entendu le prophète d'Allah dire les exorcismes et les talismans et التولة font partie du polythéisme, de l'associationnisme. فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقي سكنت. Et elle a dit, à Abdallah ibn Mas'ud, elle a dit, mon œil coulait. Elle avait un problème à son œil. Elle a dit, quand je vais voir Foulen, un tel, le juif, et il me fait cet exorcisme dans le fil, mon œil, elle se calme. Ça veut dire, mon œil, elle guérit. Donc en fait, ça veut dire, sa femme, elle allait voir comme un sorcier juif qui lui faisait des ruqya dans son talisman, là, son fil. Et quand elle faisait ça, son œil guérissait. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان. Il lui a dit ça c'est l'action du diable. كان ينسخها بيده فإذا رقى كف عنها فإذا رقي كف عنها. Il lui dit en fait ça c'est Shaitan. Il te faisait du mal à ton œil avec sa main et lorsqu'il y avait ruqya il enlevait sa main et donc toi tu crois que tu guéris parce qu'en fait à la base c'est Shaitan qui a causé la maladie. Et il lui a dit parce qu'en fait, pourquoi Shaitan, une fois qu'un ruqya, il enlève? C'est parce que ces ruqya, justement, elles comportent du polythéisme. C'est quoi le polythéisme qu'il y a dedans? C'est que le sorcier, il lit des louanges à certains au nom des shayatin et à Iblis. Donc, il glorifie Iblis dans des paroles. Et une fois que tu es tombé dans ça, Shaitan, lui, il s'en fiche que ton œil, il soit bon ou il soit pas bon. Le muhim, c'est que pour lui, tu es tombé dans le polythéisme. Donc, il te laisse tranquille. Donc, Shaitan, ça, c'est un des pièges de Shaitan. Il te cause une maladie pour te pousser à aller faire des ruqya en son honneur. C'est-à-dire pour tomber dans le polythéisme qui consiste à l'adorer lui, à le glorifier lui. Et une fois que tu as fait ça, il va te laisser tranquille. Comme ça, toi, tu t'enfonces dans le polythéisme et dans la mécréance. Et ensuite, il lui a dit « Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul » Il lui a dit à sa femme, radiallahu anhu, il lui a dit, il t'aurait suffi de dire, comme le prophète il disait, « Adhibil ba'asa rabban nas, washfi anta shafi,
La shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Il lui a dit, tu aurais dû dire ça, c'est-à-dire l'invocation que le prophète il disait pour guérir. Il disait, enlève le mal, ô le Dieu des hommes, et guéris, tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse pas de maladie. Ça, c'était l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il a dit à sa femme, plutôt que de faire ça, ce polythéisme, tu aurais plutôt dû dire l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que ça montre l'importance de la sunna. C'est pour ça que les ulama disent quand la sunna, c'est-à-dire l'enseignement du prophète, il est délaissé, eh ben la bid'a elle vient derrière. Si les gens ils connaissent les invocations du prophète et comment se soigner, ils ne vont pas aller voir les sorciers, les talib, comme ils disent là, les charlatans, etc. Ils pratiqueront ce qu'ils connaissent. Mais quand ils ne connaissent pas, ben ils vont voir le talib avec sa fauqiyya et puis ils ont confiance en lui parce qu'il prie à la mosquée. Et Hada, il leur fait des coups de table et puis ils sont contents. Donc c'est pour ça l'importance d'apprendre aux gens la sunna. Donc il dit Rawahu ibn Majah wa ibn Hibban wa al-Hakim wa qala sahih wa aqarrahu al-Dhahabi. Donc le hadith il est dans le livre d'Ibn Majah, d'Ibn Hibban, de al-Hakim. Wa al-murad bil ruqa al-manhi anha ma kana min jins ruqa al-jahiliya. Et ce qui est voulu par les exorcismes qui sont interdits, c'est ce qui ressemble aux exorcismes de l'époque d'avant l'islam. C'est pas tous les exorcismes. والتمائم ما يعلق على الحيوانات من خرز ونحوه ويأتي التفصيل فيهما. Donc التمائم c'est aussi quelque chose comme les perles, ça on l'a déjà dit, qu'ils accrochaient notamment aux animaux. والتيولة ممنوعة مطلقا إجماعا. En ce qui concerne التيولة, donc la troisième catégorie que le prophète il a cité ici, il dit ça c'est interdit absolument. Il n'y a pas de détail. Une catégorie elle est interdite, une catégorie elle permet. Ça c'est absolument interdit par consensus des ulama. قال الحافظ donc quand il dit قال الحافظ c'est Ibn Hajar, celui qui a écrit Fath al-Bari. قال الحافظ التولة بكسر التاء وفتح الواو شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضر وجلب المنافع من غير الله تعالى. Donc Al-Hafiz ibn Hajar il a dit At-Tiwala c'est une chose que la femme elle faisait pour avoir l'amour de son mari. Et il dit ça c'est une sorte de sorcellerie. At-Tiwala c'est un mot qui s'applique au genre de sorcellerie qui sert à ce que l'homme il soit pratiquement esclave de sa femme. Et ça au bled c'est connu ça. Il faut ça au... La femme elle fait ça à son bonhomme et après c'est comme un âne avec la carotte, elle en fait ce qu'elle veut. Je sais pas, ils ont plusieurs façons. Et il dit, et c'est du polythéisme parce que dedans il y a le fait de repousser le mal ou de ramener un bien par autre qu'Allah. Wa qala Ali radiyallahu anhu inna kathiran min hadhihi ar-ruqa wat-tama'im shirk fajtanibuha. Donc là il rapporte une parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui disait la plupart des exorcismes et des talismans sont du polythéisme, alors écartez-vous-en. Rawahu Waqi', c'est rapporté par Waqi'. Wal Imam Ahmed rahimahullah taqaddama tarjamatuhu wa Abu Daoud, donc là il fait une petite tarjama vite fait de l'imam Abu Daoud. Wal Imam Al-Hafidh Sulayman ibn Al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn Amr ibn Imran Al-Azadi Sijistani صاحب الإمام أحمد صنف السنن والمراسيل وغيرها. Donc il a cité le nasab de Abu Daoud, et Abu Daoud c'est celui qui a écrit le livre As-Sunan, et c'était un contemporain de l'imam Ahmed. ولد سنة 200 وتوفي في شوال بالبصرة سنة 75 و200. Et il est mort en 275. Il est né en 202, il est mort en 275. Ensuite il dit, donc il passe à autre chose. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. Là c'est un autre hadith rapporté par Abdullah ibn Ukaym رضي الله عنه, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui accroche une chose sera délaissé à cette chose, c'est-à-dire celui qui accroche une chose pour qu'elle lui rapporte du bien ou qu'elle repousse le mal, eh bien, il sera délaissé à cette chose, Allah il va le laisser à cette chose. Donc il dit وقال حسن غريب وأبو داود والنسائي وغيرهما من طرق. Donc il cite où est-ce que le hadith il est rapporté dans les livres. والتعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا. Le fait d'accrocher, quand le prophète dit ici celui qui accroche, il dit ça peut être s'accrocher avec son cœur ou accrocher avec son corps ou les deux. فمن تعلق شيئا وكله الله الى ذلك الشيء الذي تعلقه. Donc celui qui s'accroche à quelque chose, Allah il le laisse à cette chose à laquelle il s'est accroché.
فمن تعلق بالله وانزل حوائجه به وارتجأ اليه وفوض امره اليه كفاه.
Alors celui qui s'accroche à Allah et qui remet ses besoins à Allah, ça veut dire qui fait confiance à Allah pour qu'il accomplisse ses besoins, et qui se tourne vers Allah et qui laisse ses affaires à Allah, Allah il lui suffira. C'est-à-dire Allah il accomplira ce qu'il veut, si vraiment il s'en remet à Allah.
وَمَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ أَوْ سَكَنَ إِلَى رَأْيِهِ وَعَقْلِهِ وَدَوَائِهِ وَتَمَائِمِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ وَخَذَلَهُ.
Alors que celui qui s'accroche à autre qu'Allah et qui est tranquille en se reposant sur sa raison ou sur son opinion ou sur son médicament ou sur son talisman ou toutes les autres causes qu'on emploie pour avoir un bien, eh ben Allah il le laisse à cette chose et il le trompe. Allah il le trompe, parce qu'au lieu de mettre sa confiance en Allah, il a mis confiance en cette chose, même si c'est un médicament. C'est-à-dire quand tu prends un médicament, le médicament c'est licite, mais tu sais que celui qui va te guérir, c'est pas le médicament en lui-même, celui qui destine la guérison et qui fait l'effet du médicament, c'est Allah, c'est lui qui donne la guérison.
Et ensuite il dit وَهَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ بِالنُّصُوصِ وَالتَّجَارُبِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
Donc il dit, ça c'est quelque chose de connu dans les textes de la religion et dans l'expérience. Et Allah il dit, celui qui fait confiance à Allah, Allah lui suffira.
Ensuite il cite une histoire, il dit وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ وَهْبٍ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدٍ.
Là c'est une histoire, il dit, c'est l'imam Ahmed qui l'a cité, selon un des salafs qui s'appelle Wahb, une histoire qui concerne le prophète Daoud. Donc ça c'est des genres d'histoires où il n'y a pas de chaîne de transmission. C'est des histoires souvent qui sont racontées par les juifs. Et des fois les ulama, si l'histoire, le sens de l'histoire elle est bonne, ben ils les racontent. Surtout dans les livres de tafsir ou les livres qui servent à remonter la foi, etc. Donc il dit
Awhallahu ila Daoud, ya Daoud, amma wa izzati wa azamati la ya'tasimu bi abdun min ibadi duna khalqi a'rifu dhalika min niyatihi فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت لهم من بينهن مخرجا أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يديه وأسخط
الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. Il dit وشاهده في الكتاب والسنة. Donc ça c'est une histoire qu'on raconte à propos du prophète Daoud, David. Il dit que Allah a révélé à Daoud, donc ça c'est-à-dire dans Zabur, ô Daoud, par ma grandeur et ma puissance, nul ne s'accroche à moi parmi mes serviteurs en dehors de mes créatures. Ça veut dire il s'accroche qu'à moi. Et il dit, et je connais cela dans son intention. Et ensuite, si les sept cieux et ceux qui s'y trouvent, et les sept terres et ceux qui s'y trouvent, ils font un plan contre lui, moi je lui ferai une sortie. Ça veut dire, je lui trouverai une issue. Même si tout le monde dit il est contre lui, et si lui il a confiance en moi, eh ben, il trouvera une issue. Et ensuite, donc il dit l'inverse. Et celui qui s'accroche à autre que moi, parmi mes créatures, alors Allah il va mettre contre lui les cieux et la terre, etc. Et il dit le shir, donc ça c'est pas un hadith authentique ou une histoire authentique, on sait pas si c'est l'authenticité de cette chose là mais shir il dit le Coran et la Sunna, elles montrent que le sens de cette histoire elle est bonne, c'est pas quelque chose qui contredit le Coran et la Sunna, donc on peut le raconter comme ça sans dire que c'est authentique ou que c'est pas authentique.
وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي يُتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَّلْ ما هو سبب فهذا ينظر هل أباحه الشرع أو لا.
Donc les choses auxquelles on s'accroche sont de deux sortes. La première, c'est ce qui est un sabab, c'est-à-dire une cause pour arriver à ce qu'on veut. Donc cette chose qui est une cause, on regarde est-ce que l'islam l'a autorisé ou pas, comme les médicaments, etc. Tout médicament, on regarde est-ce que l'islam l'a autorisé ou pas. Ça, les médicaments, c'est un exemple.
والقسم الثاني ما ليس بسبب فلا يتعلق به بالكلية والذي يتعلق به يشترط فيه والذي يتعلق به يشترط فيه شرطان أحدهما أن يتحقق أنه سبب والثاني أن يكون مباحا.
La deuxième sorte, c'est les choses qui sont même pas des causes. Comme par exemple ici, on a cité les talismans. Les talismans, c'est pas une vraie cause dans la réalité pour arriver à ton but. Donc ça, il faut pas s'y accrocher du tout. Contrairement aux causes, aux vraies causes qu'on peut utiliser.
Il dit, en ce qui concerne donc la première partie, les choses à laquelle on peut s'accrocher entre guillemets, il dit il y a deux conditions. La première, c'est qu'on soit sûr que ce soit une cause. Donc comment on est sûr qu'une chose, c'est une cause? Par exemple un médicament ou quoi? Soit par la religion, c'est-à-dire la religion elle nous a montré que telle chose c'est une cause. Comme par quoi par exemple? Par exemple le Coran. Le Coran, là, la religion elle nous a appris que c'était une cause pour guérir. Ou alors le Habba Saouda par exemple. Ils appellent ça en français le cumin noir. Ça, c'est une cause. La religion a montré que c'était une cause pour guérir. Ou alors l'asal, le miel, etc. Donc ça, c'est la religion qui a montré que c'était une cause. Ou alors ce qu'on appelle la tajarub, c'est-à-dire l'expérience. Ou alors aussi la science. L'expérience ou la science, par exemple, la grand-mère, elle dit, si tu mets du vinaigre sur toi quand tu as la fièvre, ça fait partir la fièvre. Ça, on ne dit pas c'est du shirk. Ça, c'est vrai, parce que l'expérience, elle montre que c'est vrai. Ou alors la science. Par exemple, la science, elle dit que, elle dit quelque chose, que telle chose, elle est bonne pour, par exemple, le thé, ils ont découvert, c'est bon pour le cholestérol, par exemple. Eh bien, ça, on l'atteste, parce que ça, c'est quelque chose de scientifique, c'est prouvé, c'est clair, c'est pas une fausse croyance. Donc, soit la religion, elle le prouve, ou soit l'expérience et la science. Ça, c'est accepté. Mais si ni l'un ni l'autre il le montre, donc ça fait partie du polythéisme, ça fait partie des fausses croyances, des superstitions. Et la deuxième chose, c'est que ce soit licite. Parce qu'une chose, elle peut être considérée comme une cause réellement. Par exemple, ils disent un petit verre de rouge de temps en temps, c'est bon pour le cholestérol. Ça, c'est vrai. Les médecins, ils le disent. C'est authentique. Mais ça ne remplit pas la deuxième condition. C'est quoi? C'est que ce soit licite. Allah et le prophète, il a interdit qu'on se soigne avec ce qui est illicite, notamment l'alcool. Donc il faut deux conditions, que ce soit réellement une cause et que ce soit licite. Donc par exemple, si vous voyez les vieux, ils mettent du fer à leurs oreilles, etc. Ou alors il y en a, ils mettent des bracelets en cuivre, ben, il faut regarder, est-ce que l'expérience ou la médecine, elle montre que le cuivre, il soigne le rhumatisme? Parce que les vieux au bled, ils font ça. Même en France. Les Maghrébins, ils font ça. Ça veut dire ils mettent du cuivre, ils disent c'est bon pour le rhumatisme. Si la médecine elle montre que par le magnétisme ou je sais pas quoi, le cuivre il soigne le rhumatisme, ce qui est possible, Allah a'lam, on renie pas tout de suite, alors c'est permis. Mais s'il n'y a rien qui montre ça, c'est que c'est de la superstition et c'est du shirk. Et à mon avis, c'est plutôt ça ce qui est véridique. La plupart, ce qu'ils vont retenir, c'est le vin rouge en sortant du cours. Donc il dit ensuite là c'est Mohammed ibn Abd al-Wahhab qui parle, il dit at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad min al-'ayn. Il dit at-tama'im, les talismans, c'est quelque chose que les Arabes, donc lui il parle surtout de son époque, ils accrochent aux enfants pour les protéger du mauvais œil. Wa kadha qala al-Khalkhali wa ghayruhu at-tama'im jam'u tamimatin wa hiya ma yu'allaqu bi a'naq as-sibyan min kharazat wa 'idham li daf' al-'ayn wa hadha manhiyun 'anhu. لأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. Donc il dit, les talismans at-tama'im, c'est ce qui s'accroche aux enfants pour protéger du mauvais œil. Et là dans le commentaire il dit al-khalkhali, donc je sais pas qui c'est, il a dit ça aussi, il a affirmé cette définition, et il a dit c'est ce qui s'accroche au cou des enfants comme les perles ou les os. Et donc en vérité ce qui est voulu, c'est pas que ça, ça c'est qu'un exemple pour repousser le mauvais œil. Il dit ça c'est interdit parce qu'il n'y a personne qui repousse le mauvais œil si ce n'est Allah. Et on ne demande pas de repousser le mal si ce n'est par Allah et ses noms et ses attributs. Ensuite il dit Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. Il dit en ce qui concerne, il dit Mohammed, cependant si ce qui est accroché c'est du Coran, c'est à dire par exemple quelqu'un il accroche Ayat al-Kursi écrit à son cou, il dit certains salafs, c'est à dire certains anciens l'ont autorisé, Et d'autres, ils n'ont pas autorisé et ils l'ont classé parmi ce qui est interdit, comme Ibn Mas'ud. Donc ici, dans le commentaire, il dit « لِأَنَّ النَّهْيَ عَمْ » C'est-à-dire, pourquoi certains des anciens, ils ont dit que c'était interdit même le porter le Coran? Parce que l'interdiction du prophète, elle est générale. Le prophète, il n'a pas dit les talismans sont interdits, sauf le Coran. « وَأَمَّا تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ تَمَائِمِ الْقُرْآنِ فَتَخْصِيصٌ بِغَيْرِ مُخَصِّصٍ » Donc le fait de spécifier, le fait de dire sauf, les talismans sont interdits, sauf ceux qui sont à partir du Coran, il dit ça c'est spécifié sans une preuve qui spécifie, parce qu'il n'y a pas de preuve qui le spécifie.
وقد اختلف السلف في تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته.
Et les anciens, donc les salafs, ils ont divergé en ce qui concerne le fait d'accrocher des talismans dans lesquels il y a le Coran ou les noms d'Allah.
فروي عن بعضهم تجويز ذلك منهم ابن عبد منهم عبد الله بن عمرو وأحمد في رواية.
Parmi ceux qui ont autorisé ça, de qui ça a été rapporté, le fait d'accrocher le Coran ou les noms d'Allah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu. Et aussi l'imam Ahmed dans une version. Quand vous lisez dans un livre Ahmed fi riwaya, c'est parce que l'imam Ahmed, et comme tous les imams, souvent il peut revenir sur sa parole. Ça veut dire un coup il dit sur une chose, elle est halal, donc son élève il cite, il note halal. Donc après il va répéter aux gens, l'imam Ahmed il dit sur telle chose halal. Ça s'appelle une riwaya, c'est une version. Et par exemple, quand l'imam Ahmed il va découvrir un autre hadith qui dit que c'est haram, il va dire haram. Donc un autre élève, il aura noté haram. C'est pour ça, surtout dans l'école de l'imam Ahmed, vous avez plein d'avis différents en fait. Ahmed, des fois sur un sujet, vous avez trois avis de l'imam Ahmed. Alors que par exemple, Shafi'i, c'est plus clair. Abu Hanifa, c'est plus clair. Comme l'imam Malik aussi. Ça, donc je fais une parenthèse. Le site là de. Le site Aslama, dont je parlais hier, ils disent à un frère, ils disent. Parce que le frère, ils disent que voilà, l'imam Malik et les Malikites, ils disent que c'est pas interdit de prier dans les cimetières. Donc ça, Allah Alim, je ne sais pas si c'est vrai, même si j'ai lu dans Tamhid ibn Abdel Bar que l'avis des Malikites, ou Allah Alim, c'est ça, c'est que c'est pas interdit de prier dans les cimetières. Mais est-ce que c'est licite dans la religion? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a maudit les juifs et les chrétiens parce qu'ils prenaient les tombeaux des prophètes comme lieu de prière. Donc c'est haram ou c'est pas haram? Hadith est dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Donc c'est haram, c'est clair, le prophète il l'a dit. Donc eux, comme je vous ai expliqué, leur façon de faire, c'est que quand tu leur dis un truc qui est contre leur avis, ils vont te trouver dans un livre un shirk qui a dit le contraire. Et comme je vous avais dit, tout ce qui est... Non, j'ai pas dit ça ici, j'avais dit ça à Bruxelles dimanche. Donc je le répète, en fait, tout ce que tu veux dans la religion, si tu as envie de dire c'est halal, tu vas toujours trouver dans un livre quelqu'un qui a dit que c'est halal depuis 1400 ans. Le Maulid Nabawi, tu vas trouver Suyuti, rahimahullah, il a dit c'est licite. L'alcool, tu vas trouver Abu Hanifa, il a dit c'est licite, tant que c'est pas du vin. Même des trucs pires que ça, comme la sodomie par exemple, hachakum, azakumullah. Pour vous dire que même des trucs flagrants, vous allez toujours trouver un savant dans l'islam qui s'est trompé et qui a dit le contraire de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens du site Aslama, qui sont des Ash'arites soufis, eux qu'est-ce qu'ils font? Quand tu leur dis c'est interdit d'appeler les morts, c'est interdit de faire le Maulid Nabawi, c'est interdit ça, ils te disent, voilà, dans tel livre, tel imam, tel savant, il a dit ça. Et ils aiment bien citer Ibn Hajar ou Nawawi, parce qu'ils avaient des erreurs au niveau des noms et des attributs. Alors est-ce que toi tu comprends mieux la religion que un tel? Mais ils citent pas tous les autres qui ont dit le contraire de ce qu'ils disent. Et par exemple, donc le frère, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère, il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a interdit de prier dans les cimetières. Et après, le frère leur a cité toutes les paroles des salafs, où les salafs, ils ont dit, comme l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, si ma parole contredit celle du prophète, prenez la parole du prophète et rejetez ma parole. L'imam Malik, il a dit ça, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, etc., Abu Hanifa, tous ils ont dit ça. Parce que eux, ce qu'ils voulaient dans la religion, c'est suivre le prophète, même si des fois, ils pouvaient se tromper. Donc le frère, il leur met ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils répondent? Leur gourou, parce que c'est le gourou qui s'occupe du frère. Quand ils voient quelqu'un, il est trop fort, ils mettent le gourou. Il est interdit aux autres de parler. Donc le gourou du site, il dit au frère, c'est une honte de citer ces paroles-là, parce que ces paroles-là, elles sont destinées aux grands ulama qui font l'ijtihad.
Et nous, donc les musulmans normaux, on ne doit pas écouter ces paroles-là. Et on doit prendre l'imam Malik ce qu'il dit et c'est tout, khlas. Même si on sait que le prophète, il a dit le contraire. Parce que l'imam Malik, il sait mieux que nous ce qu'il dit le prophète. Regardez les choubouettes incroyables. Ça va loin. Et après, qu'est-ce qu'il ramène? C'est une petite parenthèse pour au cas où quelqu'un aurait été touché par ces scorpions-là. Et après, il ramène, il dit, dans le Mudawwana, Al-Mudawwana, c'est un livre dans le Fiqh Maliki, où il rapporte, l'imam Malik a dit. C'est un livre, donc c'est une référence dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah. Donc il dit aux frères, l'imam Malik dans le Muwatta, il a cité un hadith où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière comme ça, c'est-à-dire en mettant la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Et dans le Mudawwana, l'élève de l'imam Malik, il rapporte que l'imam Malik, il dit, je n'ai jamais entendu de hadith qui concerne le fait de faire ça. Alors regardez Hadha al-Mubtadi', qu'est-ce qu'il dit? Il dit au frère, alors est-ce que l'imam Malik, il est fou? C'est-à-dire dans son Muwatta, il met un hadith qui dit de faire ça, et dans une version, il dit à son élève, je ne sais pas s'il faut faire ça ou pas. Il dit, je te laisse me répondre. Qu'est-ce qu'il attend, lui? Bon, il attend bien sûr du frère qui dise, je ne sais pas. Et lui, ce qu'il veut dire, c'est que voilà, l'imam Malik, il a dit de faire ça. Il a mis un hadith comme quoi il dit de faire ça, mais l'imam Malik, il dit de faire ça. Et donc, on doit faire ça. On suit l'imam Malik, on ne suit pas le hadith, parce que l'imam Malik, il comprend mieux le hadith que toi. Est-ce que ça, c'est la règle des salafis et d'Ahl Sunnah? Ça, c'est l'inverse du minhaj salafi. Minhaj salafi, c'est que quand tu vois le hadith, il dit ça. Et l'imam Malik ou Ahmed ou qui tu veux, il dit le contraire, tu suis le hadith et tu ne suis pas l'imam. Donc, en fait, il a bloqué le frère comme ça. Mais si quelqu'un qui a un peu de culture dans l'islam, il sait que les imams, des fois, et ça vous le trouvez dans leurs livres, l'imam Malik, il pouvait dire une fatwa dans un contexte ou à une époque, parce que cette époque, c'est une époque de riwaya, c'est-à-dire c'est l'époque où on disait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des chaînes de transmission. Donc un imam, un savant à l'époque, un talibim, un étudiant, il peut voyager en Irak et entendre un hadith, et voyager à la Mecque et entendre d'autres hadiths qu'il ne connaissait pas. Donc entre temps, lui, il juge avec les hadiths qu'il connaît. Et quand ensuite il a d'autres hadiths, eh ben, il revient sur ce qu'il a dit et il suit les hadiths, etc., etc. Ou alors il peut lui être parvenu un hadith, mais d'une chaîne de transmission dans laquelle il y a des hommes qu'il ne connaît pas. Donc lui, ce hadith, il le connaît, mais il ne juge pas selon ce hadith, parce que pour lui, il n'est pas authentique. Et ensuite, il l'entend d'une autre chaîne de transmission qui est authentique. Donc là, il va l'appliquer ou il ne va pas l'appliquer? Il va l'appliquer. Mais à l'époque où il a dit sans le hadith, peut-être qu'un de ses élèves, il a cité sa fatwa. Et donc après, son élève, quand il repart chez lui, il dit, l'imam Malik, il dit ça. Et 10 ans après, l'imam Malik, il connaît un autre hadith, son autre élève, il cite, et il dit, l'imam Malik, il dit ça, et il dit autre chose. C'est pour ça que dans les madahib, dans les écoles de jurisprudence, vous trouvez ce qu'on appelle un riwayat. L'imam Malik, il a dit ça, ou alors il a dit ça, vous avez 2 avis. Donc en vérité, celui-là, c'est un charlatan. Parce que l'imam Malik, si à une période, il a dit, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un hadith qui dit ça ou pas, c'est parce qu'à ce moment-là, il connaissait pas le hadith, ou alors il connaissait le hadith, mais avec une chaîne de transmission en laquelle il n'avait pas confiance. Et quand ensuite il a su le hadith, il l'a mis dans son Muwatta, ce qui prouve que l'opinion de l'imam Malik, c'est de faire ça. Donc ça, c'est pour vous montrer comment Hado, il joue. Il joue avec les paroles des imams, et avec les contradictions que vous pouvez croire qu'il y a dans les paroles des imams, pour vous chambouler. Et après, vous croyez que en fait, vous n'avez rien compris. Et en fait, ça, c'est pour vous écarter des hadiths. Parce que si vous lisez les hadiths, ben, vous allez trouver que tout ce qu'ils font, c'est du shirk. Et eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent te faire croire que toi, tu es un musulman, d'accord. Tu dois te rabaisser, et ce qui dit shirk, tu prends. Et quand on te dit at-tawassul avec bijah salihin, le fait de demander à côté d'une tombe, ou de demander l'intercession aux morts, c'est licite, tu dois accepter. Parce qu'un tel, un tel, il a dit ça. Et après, donc, ils font du ta'an dans Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdel Wahhab, parce que c'est des savants qui sont revenus au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faut bien faire attention. Et le conseil que je vous donne, c'est de ne pas regarder ce site du tout. Parce qu'il est bourré de choubouhet. Et ils mentent beaucoup. Ça veut dire ils mettent des paroles des imams. Et quand vous vérifiez dans les livres, soit c'est pas comme ça, ou soit en fait, il y a la parole, mais après les ulama ils ont dit mais cette chaîne de transmission elle est faible. Par exemple, ils ont mis une parole d'un imam dans les attributs d'Allah et il la cite comme ça, et ça correspond à ce que eux ils pensent. Mais quand vous regardez dans les livres, dans la chaîne de transmission, il y a un homme sur qui tous les muhaddithines, les savants du hadith, ils sont d'accord pour dire que c'est un menteur. Donc regardez comment ils jouent. Ils utilisent le fait que, en général, un francophone, tu lui dis un hadith, il ne demande pas si c'est authentique, si c'est pas authentique, il prend comme ça. Donc ensuite il dit, ça fait combien, 40 minutes. Donc c'est pour ça qu'il dit, ça a été rapporté de l'imam Ahmed dans une version. Comme quoi l'imam Ahmed, il a dit que c'était licite de prendre les talismans à partir du Coran. Donc ceux qui disent que c'est permis de prendre des talismans à partir du Coran, ils disent que le hadith il concerne les talismans dans lesquels il y a du polythéisme. وقال بعضهم لا يجوز ذلك وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعقبة وأحمد في رواية اختارها الأكثر. Donc et certains autres anciens ils ont dit c'est interdit de mettre des talismans avec le Coran, parmi qui Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Uqba ibn Amir et aussi l'imam Ahmed dans une autre version. Donc là, est-ce qu'on dit comme l'autre? Est-ce que ça veut dire que l'imam Ahmed il est fou? Puisque si soi-disant pour toi ça impliquerait ça. L'imam Ahmed il est pas fou, simplement quand ça, la preuve elle lui parvient, il change son avis selon la preuve. لِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ. Donc la preuve de ceux qui ont dit que c'est interdit, c'est ce hadith, parce que le hadith il est d'aspect général. وصححه الشارح الشارح لوجوه اي الشارح الشارح دونك جو بونس اي بارل دو سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب اي اوتر سو كي اون اوثنتيفيي سيت افي c'est-à-dire ils ont dit l'avis comme quoi il est interdit même les talismans qui comportent le Coran et les noms d'Allah il est meilleur que l'avis qui les autorise pour plusieurs raisons. Il va citer quatre raisons. الاول عموم النهي ولا مخصص للعموم. La première, c'est que l'interdiction elle est générale et il y a rien qui la spécifie. C'est-à-dire le prophète il a dit les talismans sont interdits et il a pas dit dans un autre hadith sauf les talismans du Coran. والثاني أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة وغيرها من الحالات القذرة. Aussi, la deuxième raison, c'est que quand quelqu'un il accroche le Coran à son cou ou dans sa poche, eh ben, ça va être amené à une certaine méprise du Coran. Pourquoi? Parce que par exemple, il va aller aux toilettes avec. Donc ça, c'est négliger le Coran. Ça va l'amener à ça. الثالث سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ولو لم يكن إلا هذه العلة وحدها لكفى بها حجة في المنع سدا لذرائع الشرك. Aussi pour ce qu'on appelle Saddu Dhari'a, c'est-à-dire fermer les portes à l'interdit. Parce que la religion, elle est, la religion de l'islam, beaucoup elle ferme les portes à l'interdit. Comme par exemple, Allah il a interdit la fornication et il a interdit tout ce qui y ramène, comme le regard, le fait de s'isoler avec une femme. Donc la religion de l'islam elle fonctionne comme ça. Donc ceux qui ont dit que c'est interdit, ils ont dit pour couper court aux interdits. Parce que peut-être que ça va amener la personne à accrocher autre que les talismans qui sont faits à partir du Coran. Et comme il citait un savant, peut-être que toi qui as compris, tu vas accrocher un talisman du Coran, mais les gens ils vont te regarder, ils disent à Boulahia, il y a des talismans, donc les talismans c'est licite. Mais eux ils savent pas que ton talisman c'est le Coran. Et ils vont te copier et ils croient que c'est tous les talismans qui sont licites. Et donc ça va les faire tomber dans le shirk. Donc pour ça c'est interdit aussi. Il dit, et s'il n'y avait que ça comme preuve que c'est interdit, ça suffirait. الرابع أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يرقي ويرقى فلو كان تعليق تمائم القرآن جائزا لأمر به. Et parce que le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même, il a fait des exorcismes. Et on lui a fait des exorcismes. Et donc si on pouvait faire accrocher des talismans du Coran, que c'était permis, le prophète il l'aurait fait. Il l'aurait ordonné. وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن. Et rien dans le Coran et la Sunna qui prouve que c'est licite. ولا ثبت عن أحد من الصحابة المقتدى بهم تجويزه ولا فعله مع توفر الدواء إليه. Et il n'a pas été rapporté d'un des compagnons le fait que ce soit licite. Donc si ce n'est Abdullah ibn Amr. et non plus le fait de l'avoir fait, alors que c'est quelque chose qui est, dont on aurait besoin si c'était licite.
وما ذاك إلا لأنه ينافي التوكل والإخلاص ولعل عبد الله بن عمرو يعلقه في الألواح لا أنه تميمة.
Et il dit parce qu'aussi ça contredit le fait de s'en remettre complètement à Allah et la sincérité envers Allah. Et lui il dit, Cheikh, il dit en vérité ce qui a été rapporté de Abdullah ibn Amr ibn al-As, peut-être qu'en vérité Abdullah ibn Amr, ce qu'il voulait dire c'est que c'est licite d'accrocher le Coran, par exemple sur une tablette, comme un tableau, mais pas comme un talisman. Lui il dit à son avis, c'est plutôt ça qu'il voulait dire le compagnon du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam.
وخص منه الدليل ما والرقى هي التي تسمى العزائم.
Donc ensuite Muhammad ibn Abdul Wahhab dit الرقى, les exorcismes, ça s'appelle aussi العزائم.
واحدتها عزيمة وهي الرقية وعزم الراقي قرأ العزائم.
Donc aussi الرقية c'est synonyme de عزيمة. On peut dire aussi العزائم.
أو العزائم آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات.
Ou alors il nommait l'azaim certains versets du Coran qu'on lisait sur le malade.
وقيل أنواع منها ما ينفث به على المريض وما يجعل في ماء ويسقى المريض ومنها هذه العزائم التي تكتب في الصحن ونحوه.
Et aussi le fait, il y a plusieurs sortes, comme le fait de postillonner sur le malade, ou alors de le mettre dans l'eau et de le donner au malade, ou alors de l'écrire dans une assiette, etc. Après il va détailler.
خص منه الدليل ما خلا من الشرك.
Et les preuves ont montré que ce qui en est licite parmi ces genres de pratiques, c'est dans les choses dans lesquelles il n'y a pas de polythéisme.
فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
Et le prophète il a permis notamment la ruqya, l'exorcisme contre les mauvais œils et la fièvre. Les piqûres de scorpions ou de serpents, etc.
يشير.
Donc celui qui explique, il dit يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. Donc en fait Mohammed ibn al-Wahhab, ce qu'il veut dire ici, c'est que les exorcismes qui sont qualifiés de polythéisme, de shirk, c'est celles dans lesquelles on cherche le secours d'autre qu'Allah. من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به. Comme le fait d'invoquer autre qu'Allah, ou de demander le secours d'autre qu'Allah, ou la protection d'autre qu'Allah. Ça, c'est ce qu'ils font certains gens. Ils font des exorcismes ou des pratiques, des talismans dans lesquels ils invoquent autre qu'Allah parmi les shayatins.
كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك.
Comme les exorcismes qui sont faits avec les noms des anges ou les noms des prophètes ou alors les noms des djinns. Donc c'est pour ça certains, les talibs là, comme ils disent, si jamais quelqu'un y a déjà été chez eux, ils remarquent que tu comprends rien à ce qu'il dit. Il arrive, donc Cheikh, avec sa djellaba, il arrive et quand tu l'entends lire, tu comprends rien. Blablabla. Ça ressemble pas à de l'arabe, ça ressemble pas à du Coran, ça ressemble pas au nom d'Allah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il est en train de citer les noms des shayatins. Et les shayatins, ils ont des noms bizarres. Et en fait, il est en train de les glorifier. Et c'est par ça qu'ils arrivent à avoir le service pour eux des shayatins. Et ils font donc des rukia et de la sorcellerie avec ça.
وأما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب كما تقدم.
En ce qui concerne les exorcismes qui sont faits avec le Coran ou les noms d'Allah ou les attributs d'Allah, comme ça a été ramené du prophète صلى الله عليه وسلم, ça au contraire c'est bien, c'est permis et on peut même dire que c'est préférable, c'est recommandé de le faire.
وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
Donc ça c'est un hadith qui est dans Sahih Muslim. Un compagnon qui s'appelle Auf ibn Malik, il dit dans le Jahiliya, c'est-à-dire avant la venue du prophète, on faisait des ruqya. Donc c'était quoi les ruqya qu'ils faisaient avant l'époque du prophète? C'était avec des noms de shayatin. Donc ils connaissaient des formules pour guérir. Donc ils ont dit au prophète, qu'est-ce que tu penses de ça, des ruqyas qu'on fait habituellement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, montrez-moi ce que vous dites. C'est-à-dire que les ruqyas que vous faites, aridu alayya, c'est-à-dire montrez-moi ce que vous dites. Et il leur a dit, il n'y a pas de mal dans les exorcismes tant qu'elles ne sont pas du polythéisme. Donc ça, c'est une preuve, c'est dans Sahih Muslim, comme quoi l'exorcisme, al-ruqya, c'est licite, tant qu'il n'y a pas de politisme dedans. قال الخطابي وقد رقى ورقي وأمر بها وأجازها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها. Donc الخطابي c'est un savant qui a fait un livre qui s'appelle معالم السنن, et c'est un livre de référence dans tous les livres d'explication, etc. Toujours ils disent قال الخطابي, c'est un livre qui s'appelle معالم السنن, en fait c'est l'explication des Sunan Abi Daoud. Il dit le prophète a fait les exorcismes et a subi, c'est-à-dire on lui a fait. C'est notamment qui lui a fait l'exorcisme, Jibril et Aïcha radiallahu anha. Et il a ordonné de les faire et il les a permis. Donc si les exorcismes sont faits avec le Coran ou les noms d'Allah, donc c'est licite. Ou alors c'est même recommandé. وَإِنَّمَا جَاءَ الْمَنْعُ فِي مَا كَانَ بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ كُفْرًا أَوْ قَالَ يَدْخُلُهُ الشِّرْكِ. Donc, et il dit al-Khattabi, ce qui est interdit parmi les exorcismes, c'est ce qui n'est pas en langue arabe, parce que peut-être que ça comporte la mécréance. Donc il faut que la personne elle parle en arabe pour qu'on comprenne ce qu'elle dit quand elle fait ruqya. Parce que si elle parle en shlouh ou hein, elle va dire des trucs, on va rien comprendre. Et si ça se trouve, elle est en train de dire des noms de shayatin. Aw qala an yadkhuluhu shirk. Qala shaykh al-Islam. Donc là il cite Ibn Taymiyyah. كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به. شيخ الإسلام ابن تيمية dit tout nom qui est inconnu, il n'appartient à personne de faire des ruqya, c'est-à-dire des exorcismes en utilisant ce nom, et encore pire s'il invoque ce nom. ولو عرف معناه, même s'il connaît sa signification, c'est-à-dire la signification de ce nom, parce qu'en fait quand il parle des noms, c'est surtout à cause des noms des shayatin. وإنما يرخص لمن لا يحسنها فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. Donc ça il dit, donc les ruqya c'est permis pour celui qui maîtrise ce qu'il dit, et le fait de prendre des paroles non arabes pour les ruqya, il dit ça ne fait pas partie de la religion. قال السيوطي, donc là il cite une parole de السيوطي. As-Suyuti, c'est un savant, ils disent, Allah alayhi, certains disent c'est lui qui a écrit le plus de livres dans l'islam. Il est mort en 911 de l'ère musulmane. Il dit ajma al-ulama'u ala jawazi ar-ruqa inda ijtima'i thalathati shurut. Donc là, c'est important, vous retiendrez ça, Inch'Allah. As-Suyuti, il dit les ulama sont tous d'accord pour permettre les exorcismes avec trois conditions. Donc il dit أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته, que ça contienne la parole d'Allah et ses noms et ses attributs. Donc c'est-à-dire que la personne, pour soigner un malade, elle lit le Coran ou alors elle invoque Allah avec ses noms et ses attributs. وباللسان العربي وما يعرف معناه من غيره, ou alors que ce soit en langue arabe, ou alors si c'est dans une autre langue que la langue arabe, de façon à ce que ce soit compris, ce qui est connu, quelque chose dont la signification elle est connue. En fait, le muhim dans ce point-là, c'est que ce ne soit pas quelque chose qu'on ne comprend pas, comme il fait Talib. وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لَا تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى. Et que la personne qui fait le ruqya, elle croit que ce n'est pas la ruqya en elle-même qui fait effet, mais que c'est Allah qui fait l'effet. Et qu'elle fait effet que par destin d'Allah. Ça, c'est comme pour les médicaments et pour tout. Donc, le ruqya pour résumer, c'est le fait de lire en fait le Coran sur quelqu'un qui est malade ou qui est possédé ou qui est ensorcelé ou qui est atteint du mauvais œil. Donc ce qu'on retire ici, c'est que c'est licite et que le prophète il l'a pratiqué. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit "Wattiwalatu shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'atu aw yuhibbu annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha war-rajula ila imra'atihi." وروى الإمام أحمد عن رويفع. Donc ça c'est après. Ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab dit At-tiwala, c'est quelque chose qu'il fabrique pour faire aimer la femme à son homme ou faire aimer l'homme à sa femme. Donc j'ai dit ici وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ. Autre que Muhammad ibn Abdul Wahhab, ils ont aussi apporté cette explication sur At-tiwala. وَبِهَذَا فَسَّرَهُ ibn Mas'ud رضي الله عنه راوي الحديث. Et c'est l'explication de Abdullah ibn Mas'ud qui a ramené le hadith. Le hadith qui concerne At-Tiwala. Donc il dit كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا Donc ça a été rapporté dans le livre d'Ibn Hibban et de l'Hakim. Ils ont dit à Ibn Mas'ud, « Ya Aba Abdurrahman, hadihi ar-ruqa wa at-tama'im qad 'arafnaha, fama at-tiwala. » Donc les gens, ils ont dit à Ibn Mas'ud, « Oh Abu Abdurrahman, ces exorcismes et ces talismans, nous les connaissons. Mais qu'en est-il de at-tiwala ? » Ça veut dire, qu'est-ce que c'est at-tiwala ? Quand il a cité le hadith, ils lui ont dit, c'est quoi at-tiwala ? قال شيء تصنعه النساء يتحببن به الى ازواجهن. Il dit, ça c'est quelque chose que les femmes elles fabriquent pour se faire aimer de leur mari.
وتقدم قول الحافظ انه من الشرك.
Et Ibn Hajar, donc il a dit que ça faisait partie du polythéisme. لما يراد به من دفع ضر او جلب نفع من غير الله تعالى. Et que c'est du polythéisme parce que c'est chercher le bien ou le mal par autre qu'Allah. وتسمى الصرف والعطف. Et ça s'appelle aussi الصرف والعطف. Ça c'est connu ce nom là, c'est plus connu que التوالا. Le fait quand la femme elle fait de la sorcellerie pour que son bonhomme il soit comme un pantin, ça s'appelle الصرف والعطف. Parce que صرف, donc ce صرف c'est pour séparer les époux, et العطف c'est pour les mettre ensemble. Donc tu voyages au bled, puis ta cousine elle te met ça dans ton couscous, comme ça dans un an tu lui fais les papiers. C'est ça l'art. Et puis un an après, ton autre cousine elle te met un sarf parce qu'elle est jalouse de sa cousine, donc tu te sépares. C'est comme ça qu'il faut. Un sarf ou l'art.
وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك.
Donc là l'imam Ahmed il rapporte selon un sahabi qui s'appelait Rouaifi'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Rouaifi'a, peut-être que tu vas vivre longtemps. Cheikh il dit ici, فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فإن رويفع طالت حياته إلى سنة 56. Et le prophète il a dit au sahabi, oh Rouaifi'a, peut-être que tu vas vivre longtemps. Et Cheikh il dit, Rouaifi'a il est mort en 56 après l'Hégire. Donc il a vécu longtemps. Ça prouve que c'est une des preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Fa akhbiri an-nasa anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'ab fa inna Muhammadan bari'un minhu.
Est-ce qu'on continue ou on arrête parce que l'heure elle est passée? Qu'est-ce qui est motivé là? Continue parce qu'il reste deux pages. Inch'Allah. Donc il dit, le prophète il a dit à Rouaifi'a, il a dit, informe les gens que celui qui fait un nœud à sa barbe ou qui met, donc comme on a vu tout à l'heure, au cou de son chameau la corde d'un arc, ou alors qui se nettoie après avoir fait ses besoins par un crottin ou par un os, alors Mohammed, donc c'est-à-dire le prophète, est innocent de lui.
Donc il dit, fihi dalilu wujubi ikhbari an-nasi bima umiru bihi wa nuhu anhu مما يجب فعله أو تركه وليس مختصا بروايفيع.
Donc ça, excusez-moi, je rigole pour ce qu'on racontait avant. Il dit, ça prouve l'obligation d'informer les gens sur ce qui est interdit et ce qui est obligatoire, sur ce qui est obligatoire de délaisser ou de faire. Et c'est pas seulement pour le sahabi Ruwayfi'a. Le prophète il a dit ça à Ruwayfi'a, mais ça concerne tous les musulmans.
بل كل من كان عنده علم ليس عنده غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به.
Au contraire, chaque personne qui a une science qui n'est pas partagée par quelqu'un d'autre et qui a une science dont les gens ont besoin, il doit la déclarer. Il doit en informer les gens.
فإن الله قد أخذ العهد على العلماء, parce qu'Allah il a pris le pacte des savants. فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية.
Et si la personne et une autre personne ont cette science dont ont besoin les gens, alors le fait de la déclarer, c'est fard kifaya. Ça veut dire, si l'un des deux le fait, l'autre, il n'est pas obligé de le faire. Par exemple, un groupe, une société, par exemple, où il n'y a qu'un musulman qui connaît l'arabe. Donc ce musulman, il est obligatoire d'enseigner l'arabe aux autres. Mais s'ils sont deux, si l'un des deux le fait, l'autre, il n'est plus obligé. C'est comme ça que ça fonctionne.
Donc quand il dit anna man aqada lihyatahu, sur celui qui fait un nœud à sa barbe, Cheikh il dit yufassaru ala wajhayn.
On peut le comprendre de deux façons.
Ahaduhuma ma kanu yaf'alunahu fil harb. يعقدون لحاهم وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وعجبا.
Il dit la première façon, c'est ce qu'on peut comprendre par faire un nœud à sa barbe, c'est ce qu'ils faisaient pendant la guerre. Et ça, ça faisait partie à l'époque de la, des habitudes des non-arabes. C'est-à-dire ils faisaient un nœud à leur barbe et c'était un signe d'orgueil.
الثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث أعوذ بالله.
Il dit, Cheikh, la deuxième chose c'est le, une façon de traiter sa barbe. يتعقد يتجعد, ça veut pas dire qu'elle devienne lisse, c'est ça, hein? Voilà. Il dit c'est une façon donc qu'ils avaient pour que la barbe elle devienne lisse. Il dit ça c'est un acte de, des efféminés, donc c'est interdit.
Non, non, parce qu'il dit lihyatahu. Man aqada lihyatahu.
Donc il y a deux choses qui sont. Les ulama, ils ont expliqué cette phrase par deux choses. Soit une habitude qu'ils avaient, les non-arabes à l'époque, d'accrocher leur barbe pendant la guerre. Et c'était, donc c'est de la ressemblance aux non-musulmans. Et c'était par orgueil. Donc ça fait passer des habitudes des gens de l'orgueil. Et une autre, c'est une habitude de l'époque qui consistait à lisser sa barbe. Et que et donc ça il dit ça fait pas ça c'est pour les gens efféminés, ceux qui prennent trop soin d'eux. Et l'islam donc, l'islam c'est le juste milieu. C'est-à-dire l'islam il a pas demandé à l'homme de se pouponner toute la journée, et en même temps il a demandé aux musulmans d'avoir une certaine tenue. C'est pour ça quand un sahabi il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les cheveux tout plein de poussière et tout dans tous les sens, le prophète il a dit pourquoi je vois certains d'entre vous qui viennent avec des têtes de shaitan. Donc c'est-à-dire il ordonnait. Aussi le prophète sallam il a dit dans le sens du hadith haqqun lillahi ala kulli muslimin ruslun fi sab'in ou fi sab'atin, je sais plus. C'est-à-dire que le prophète il a dit qu'il est obligatoire aux musulmans de se laver au moins une fois tous les 7 jours, ce lavage complet. Le prophète sallam il a aussi ordonné à quelqu'un qui s'était converti de se laver, parce que des fois vous pouvez vous demander est-ce qu'à l'époque il se lavait qu'avec de l'eau. Non, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de l'eau et du cidre. C'est-à-dire qu'ils avaient une sorte de savon à l'époque, c'est le cidre. Le cidre, ils le vendent maintenant dans les maktabas, surtout pour se soigner contre la sorcellerie, parce que ça soigne. Mais le cidre, en fait, c'est une feuille d'arbre. À Médine, ça pousse beaucoup. Si tu la mous, ça fait une poudre verte. Si tu la mets dans l'eau et tu la secoues, mais il faut bien secouer, ça mousse. Et c'était le savon de l'époque. Pour pas que vous pensiez qu'à l'époque, ils se lavaient qu'avec de l'eau, et donc ils avaient des odeurs et tout. Non, le prophète, il leur donnait aussi. Par exemple, celui qui s'était converti lui a dit « Lave-toi avec de l'eau et du cidre », etc. Mais en même temps, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith authentique, dans Sunan Abi Daoud ? Un sahabi, il a dit « Naha Rasulullah an yamtashita ahaduna kulla yom ». Le prophète a interdit que l'un d'entre nous se peigne tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est pour pas que l'homme il soit tout le temps habillé. Ça, c'est le truc des femmes, de tout le temps se faire beau, se pouponner, tout ça. Donc l'islam il a dit que l'homme il doit être entre les deux. Il doit être propre, il doit avoir une bonne apparence, mais pas non plus passer sa journée à être tout le temps devant le miroir, etc. Dans le juste milieu.
قال ابن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة.
Donc ici c'est un savant qui a dit, il dit la meilleure interprétation du hadith c'est l'interdiction de faire un nœud à sa barbe pendant la salat.
كما في رواية محمد بن الربيع أن من عقد لحيته في الصلاة.
Parce que dans une version du hadith, le prophète il a dit celui qui fait un nœud à sa barbe dans la salat.
ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر من فت أطراف الشوارب وإبقائها مخالفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال أحف الشوارب وأحف اللحى.
Il dit, et ça ressemble à ce qu'ils font beaucoup de gens, qui est contraire à la sunna du prophète, parce que le prophète il a dit donc taillez les moustaches et laissez pousser vos barbes.
Ahfou shawarib, ahfou ça veut dire raser.
Et dans d'autres il a dit ahfou shawarib, laissez les moustaches, ou qassou shawarib. Donc en fait les deux ça existe dans l'islam. Et tu peux raser, donc c'est pas dès que tu vois quelqu'un qui a la moustache rasée, tu dis ouais, c'est un gros tablier. Il faut pas avoir cette habitude là. Parce qu'il y a beaucoup de frères, ils se moquent. Même Cheikh Ibn Baz, il dit la sunna la plus proche du prophète, c'est de se raser la moustache. Et Shawkani aussi dans l'Autar. Parce que Ahfou, l'Ihfa, c'est raser. Et d'autres ulama, et ça c'est la ville plus sûre, c'est qu'en fait il faut simplement la tailler. Pourquoi je dis c'est la ville plus sûre? Parce que l'imam Malik il faisait frapper celui qui taillait sa moustache, parce qu'il disait l'ihfa, rasé pardon, parce qu'il disait l'ihfa, il disait que c'était interdit. Mais ça a été rapporté de certains compagnons. Al-Muhim, c'est que la sunna c'est deux choses, soit la raser ou soit la tailler. Mais il ne faut pas la laisser pousser comme il faut le majus. Ou a'fou l'liha, et laisser pousser sa barbe. Comme ils ont montré les compagnons du prophète, c'est-à-dire jusqu'à qu'on puisse le prendre par sa main, ensuite on la coupe. Donc il dit, ensuite il dit, Aoutakallada wataran, ça je vais le passer parce qu'on l'a déjà vu. Parce qu'on n'a plus le temps. Aouistan jabiraji dabbatin awab. C'est-à-dire celui qui fait ses besoins avec un crottin ou avec un os. Ça non plus je ne vais pas le lire parce que c'est un autre sujet. Donc le Mohammed Sassam est innocent de lui. Il dit Wa'idun Shadid, wa yadullu ala annahu min al kaba'ir. Il dit ça prouve que ça fait partie des grands péchés. C'est-à-dire le fait de faire un nœud à sa barbe. Mais ce qui est voulu dans le hadith, c'est quand il a dit taqallada wataran. Ça veut dire celui qui met un watar, un fil d'arc au cou de sa chamelle. Parce qu'il faisait ça, comme on a vu, pour se protéger du haïn. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Ou alors, ça fait 1h08. On va finir, Inch'Allah. Il dit وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. Donc ici c'est Waqi'a qui ramène une parole de Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr c'était un élève d'Ibn Abbas, un des tabi'in qui était à Mecca, un des imams des tabi'in. Il a dit celui qui coupe un talisman sur un être humain, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. C'est-à-dire si par exemple tu vois quelqu'un avec un talisman, tu lui arraches. Il dit celui qui a fait ça, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit Shir أي كان له مثل ثواب من اعتق رقبة لأنه مستعبد للشيطان. Il dit c'est comme si il avait affranchi un esclave, parce que celui qui fait ça, il s'est esclavagisé vis-à-vis du shaitan. Il s'est soumis au shaitan. Donc toi tu le libères de cet esclavage. فإذا قطعها اعتقه من أسر الشيطان. Et quand tu le coupes, tu le coupes de l'emprisonnement du shaitan, de la soumission au shaitan. ففيه فضل قطع التمائم وأنها شرك. Donc on en comprend le mérite de couper les talismans et que les talismans sont du polythéisme. Ensuite il dit, donc vite fait, il dit que ce genre de parole, ça se dit pas par, c'est pas une opinion. Saïd ibn Jubayr, il a pas pu dire ça comme une opinion. Il dit ça c'est parce qu'il en connaît un hadith. Donc certains ulama, ils ont dit ce genre de parole, c'est comme si ça remontait à qui? Au prophète. Mais ça fait un hadith mursal, parce qu'il n'a pas cité la chaîne. Et lui c'est un tabi'i, il n'a pas rencontré le prophète. Donc c'est l'équivalent d'un hadith mursal. Et le hadith mursal, pour la plupart des ulama, c'est da'if. Mais bon, on peut prendre sa parole parce que le sens il est bon. Donc c'est tout. Après il dit وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ. Donc pour résumer, il dit, donc Waqi' il ramène selon Ibrahim. Ibrahim c'est Ibrahim al-Nakhai, c'est un tabi'i de Al-Kufa, la ville de Kufa en Irak. Et c'est un des imams de la génération des tabi'in. Mais lui, il n'a pas directement rencontré Ibn Mas'ud. Mais il a appris avec les grands élèves d'Ibn Mas'ud. Parce que même dans une génération, par exemple la génération de tabi'in, tu as plusieurs générations. Par exemple, Az-Zuhri, c'est un tabi'i. Mais il n'a pas rencontré beaucoup de sahaba. Ceux qui ont rencontré beaucoup de sahaba, c'est par exemple Saïd ibn Musayyib, Mujahid, etc. Et c'est-à-dire ils avaient un certain âge. Quand ils étaient avec les compagnons, ils étaient déjà adultes. Ils ont vraiment appris avec eux. Alors qu'Ibrahim al-Nakhai, lui, il a appris avec les compagnons d'Ibn Mas'ud. Donc là, les ulama, ils disent, quand ils parlent comme ça au pluriel, ils parlent des élèves d'Ibn Mas'ud. Comme Al-Qama, Al-Aswad, Masruq, ça c'était les grands élèves d'Ibn Mas'ud. Donc ils racontent que les élèves d'Ibn Mas'ud, ils interdisaient tous les talismans, même si c'est à partir du Coran. Donc là, il cite ça, c'est pour préciser l'opinion d'Ibn Mas'ud, c'est tout. Donc le chapitre suivant, c'est en ce qui concerne le fait de chercher la baraka dans un arbre ou une pierre, comme ceux qui s'essuient sur les piliers de la mosquée, etc. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.